Chapitre 54. Nous étions tout juste de retour au PC sécurité quand les écrans s'allumèrent de nouveau. Les gardes restés en observation poussèrent un grognement de satisfaction. La connexion est rétablie, constata Isvoran, mais il faudra attendre qu'ils amènent de la lumière pour être sûr que tout fonctionne à nouveau correctement. J'opinai et me tournai vers Derek. Je veux pas aller au moulin. J'y retournerai bien tant qu'ils se tiennent tranquilles. Pour toute réponse, il me fit un large sourire. Nathan nous ouvrit la porte et nous sortîmes tous les trois. J'ignorais combien de kilomètres nous avions parcouru à pied ces derniers jours, mais nous avions certainement pulvérisé nos records. Nos courses sur les rives de la Seine me paraissaient appartenir à un autre monde, un autre siècle. Nathan semblait très heureux de retourner au labo. Il marchait devant avec Derek, tous deux discutant de ce qu'avait pu être la vie ici à l'époque des premiers frères. Pour ma part, je réfléchissais à ce que je ferais si je me trouvais à la place de nos ennemis et à l'issue possible de cette aventure. Il fallait tout envisager et j'avais un peu de mal à être optimiste. J'observais Nathan devant moi. Tellement de choses avaient évolué en si peu de temps. J'aimais le voir parler avec Derek, mes deux vies enfin réunies. Je n'aurais jamais cru qu'un jour elles fusionneraient si naturellement. Profitant des quelques instants où personne ne m'adressait la parole, je pouvais penser seul, n'ayant à répondre qu'à mes propres doutes. Depuis le début, tous avaient tenu leur place. Il n'y avait eu aucune déception humaine. Je crois qu'en cela résidait mon premier et peut-être mon plus puissant motif de satisfaction. Derek et mon ami riaient, en dépit de tout. Quand nous arrivâmes au moulin, les gardes paraissaient nerveux. La porte était close. Elle s'ouvrit sur la vision d'un chantier. La rivière ne coulait plus, le son de la cascade avait laissé place au vacarme des outils et des voix qui avaient tout l'espace pour résonner. On aurait dit une usine. Des frères sortaient des caisses pleines du boyau d'arrivée de la rivière, les faisant descendre à l'aide de filets et de cordes, tandis que des vides étaient acheminés vers le labo par l'orifice de sortie. Dans ce décor, ils me firent penser aux lutins et aux elfes travaillant dans les ateliers imaginaires des contes de fées. Le sage devait être dans le laboratoire. Nous nous glissâmes entre deux caisses et pénétrâmes dans le tunnel. Il fallait se pencher, mais je me sentais parfaitement à l'aise maintenant que j'étais à pied. L'angoisse qui avait été la mienne lorsque je l'avais passée la première fois n'était plus qu'un souvenir. Des chercheurs faisaient le croquis de la petite salle au rideau aquatique. « Nous avons compris la raison d'être de cet écran d'eau », nous expliqua l'un d'eux. « Vous avez été bien inspiré de l'éviter. L'eau est captée dans le boyau et renvoyée profondément dans le sol où elle ruisselle sur des blocs d'uranium et se charge de particules radioactives avant de se déverser ici. Si vous passez dessous, vous prenez une douche nucléaire et vos jours sont comptés. C'est avec des systèmes de ce genre que les Égyptiens et les Incas entretenaient la rumeur des malédictions qui frappaient toute personne osant s'introduire dans leur sanctuaire. Lorsque nous arrivâmes au laboratoire, je restai figé par l'image fantastique qui s'offrit à nos yeux. Les frères avaient allumé les chandeliers. Ils s'affairaient, apparaissant ou disparaissant au gré des colonnes, feuilletant les volumes, déplaçant les bocaux, classant les ustensiles, prenant des notes. La lumière des bougies rendait toute son ampleur à l'endroit. Et animé de cette vie soudaine, ce lieu que nous avions trouvé endormi nous renvoyait dans le passé. Nous ne l'avions vu qu'éclairé à la lumière trop blanche des faisceaux de nos lampes, mais une douce lueur dorée baignait à présent chaque recoin. Le bois semblait neuf, les pierres chaudes, les hommes lumineux. Nathan resta immobile à contempler la magie à l'œuvre, tandis que Derek, subjugué, partait à la rencontre de la salle. Les frères transportaient et emballaient avec soin tous les objets que les supérieurs leur désignaient. Le sage glissait d'une table à l'autre, s'usant les yeux à déchiffrer tournant les pages, s'arrêtant, ébahi, devant les outils. J'allais le rejoindre. Il y avait bien quelque chose à trouver, fis-je en préambule. Il se releva, me sourit et ouvrit largement les bras, embrassant tout ce qui nous entourait. C'est la vraie vie, le savoir, la communauté des esprits et des corps, la quête infinie des secrets de ce monde. Que peut-il y avoir de plus fort? Il exultait, ravi de cette nouvelle source de connaissances. Il nous faudra des années pour comprendre l'avance de ces hommes, des décennies pour assimiler leurs découvertes. Mais je vais te dire une chose. Il me saisit par les épaules. Rien ne sera assez fort pour m'arracher à cette vie tant que je n'aurai pas terminé. Ces pages renferment suffisamment de force pour ne plus avoir besoin de dormir, pour ne plus avoir à manger, pour ne plus vieillir. L'esprit que ces hommes ont assemblé en ce lieu est plus fort que la mort. La découverte de leur mode de travail et de leur communion de recherche est aussi fondamentale que les formules inconnues que nous allons trouver dans ces grimoires. Il caressa la couverture en peau d'un épais volume relié. Le vieil homme, qui en cet instant n'avait plus d'âge, poursuivit. « Songez, toi et ton ami, que la planète regorge de sites comme celui-ci. Nous ne sommes qu'une confrérie d'une civilisation d'un continent. La Terre est toujours trop vaste pour ceux qui cherchent. Vous n'aurez pas assez de 10 vies pour vous blaser. Plus vous serez curieux, plus vous apprendrez, plus vous comprendrez, et plus vous serez comblés. » Il y avait dans ces mots la ferveur, la sincérité d'un homme ayant vécu d'innombrables années, à la fois très âgé, très sage, et pourtant intensément fougueux. Jamais je ne l'avais vu aussi loquace. J'étais seul à poursuivre ma mission, reprit-il, et pourtant, je suis heureux. Il marqua un silence et ouvrit les mains, nous englobant tous deux dans une même vibration. Son regard était comme une porte sur l'infini. Vous, vous êtes deux. Imaginez jusqu'où vous pouvez aller. Vieillissez ensemble, proche ou lointain, mais ensemble. Il nous adressa un sourire incroyable, une sorte de fusion de toutes les manifestations d'attachement que peut donner un homme. On aurait dit qu'il souriait à ses enfants, à ses frères, à ses maîtres, à ses compagnes, à la vie, le tout ensemble. Nathan ressentit comme moi la puissance de ce sentiment. Des milliers de visages venaient de nous sourire en un seul. Puis le sage se détourna doucement et l'éternité redevint homme. Mais je crois que l'on vous cherche. Notre travail n'est pas terminé. Au même moment, un garde se matérialisa près de nous. On m'envoie vous prévenir, ça bouge de l'autre côté. Nous arrivons. Nathan désigna Derek d'un air interrogatif. Je secouai la tête. Laissons-le. Ici, il se repose et reprend des forces. Quelques instants plus tard, nous débouchions dans le moulin, suivi du garde messager. Aussitôt, celui-ci alla reprendre son revolver.
Il avait laissé son arme ? S'étonna Nathan.
C'est la règle. En entrant dans un sanctuaire, tu dois abandonner toute agressivité.
Et donc, tous les symboles qui s'y rattachent.
Accompagnés par le garde, nous repartîmes en courant vers la salle de surveillance. On avait de l'avance pour le réveillon, mais, en dehors de la nourriture, la fête était mémorable.